Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est une rivière tumultueuse qui fait office de frontière entre la Turquie et la Grèce. Malgré la pression des polices turques et grecques, les migrants multiplient les tentatives pour la traverser. C'est même devenu la route privilégiée désormais à la traversée des îles plus au sud. D'après un rapport de l'agence Frontex, le nombre de passages a augmenté de 32% en une année seulement. Ils étaient 42 000 en 2017, près de 56 000 en 2018. C'est le reportage de Vincent Van Hove et Quentin Varlope.
Là, c'est un endroit de passage de l'autre côté du fleuve. Regardez, ils ont même construit des marches pour aller dans l'eau. Les passeurs les font ensuite passer de l'autre côté. Il y a beaucoup d'endroits comme ceci le long du fleuve Evros.
Ioannis habite à quelques centaines de mètres du fleuve. L'Evros sépare trois pays, la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Depuis quelques mois, c'est la nouvelle route empruntée par les migrants pour tenter de rejoindre l'Europe.
Regardez ici, il y a des vêtements. Les migrants sortent mouillés de l'eau, très souvent. Des vêtements secs et des chaussures les attendent. Nous avons déjà trouvé des caisses remplies d'affaires qui attendent les prochains migrants.
L'année dernière, ils sont près de 18 000 à avoir passé la frontière, mais tous n'ont pas survécu. Certains sont morts noyés, d'autres d'hypothermie. Une fois les corps récupérés, un seul homme tente de les identifier. Pavlos Pavlidis est médecin légiste.
Dès que le mort arrive ici, on le photographie. On fait une description complète des vêtements. On cherche d'autres indices que la police n'aurait pas trouvés, comme les tatouages, les cicatrices ou les autres effets personnels.
L'année dernière, il a récupéré 39 corps, dont un tiers a pu être identifié.
Ici, ce sont les effets personnels de la première personne arrivée cette année. On a trouvé ces pièces d'identité. On a vu qu'il s'agissait d'un Pakistanais. On a pris des échantillons ADN de la famille du défunt. On a pu prouver qu'il y avait une correspondance. Avec l'ADN, on a pu l'identifier et nous avons pu rendre son corps à sa famille pour qu'il soit enterré au Pakistan, auprès de ses proches.
Une nouvelle route pour des milliers de migrants et un passage quasiment obligé, le centre de premier accueil. Mourat est turc, lui voulait fuir le régime du président Erdogan.
Je suis arrivé ici lundi dernier à 6h du matin par bateau. J'ai payé 1300 euros pour la traversée. C'était très dangereux. J'ai failli perdre la vie sur le bateau. Ce n'était pas l'accord conclu avec les passeurs. L'homme qui a pris notre argent nous a dit qu'il allait nous aider à passer le fleuve. Mais en arrivant dans l'eau, il nous a trahis. Il nous a laissés seuls.
Le camp de premier accueil peut accueillir jusqu'à 240 personnes. Christophe Mihailidis, directeur du centre.
Le travail ici, c'est l'enregistrement et la vérification de l'identité de ceux qui arrivent ici. Il y a un contrôle médical et un support psychosocial. On les informe sur leurs droits et leurs devoirs, ainsi que sur leurs demandes d'enregistrement et leurs demandes d'asile.
En 2015, lors du pic d'arrivée de migrants, ils choisissaient les îles de Lesbos ou de Samos. Il y a 3 ans, l'Europe et la Turquie signent alors un accord pour limiter les arrivées de migrants. Pourtant, depuis quelques mois, ils passent par la frontière turque. Rien d'étonnant pour Ioannis Mouzalas, ministre grec de l'immigration en 2015.
À l'origine, nous avions demandé à l'Union européenne d'inclure le passage d'Evros dans l'accord avec la Turquie, mais cela n'a pas été accepté.
Résultat, beaucoup de migrants savent qu'ils seront mieux protégés que dans les îles.
Celui qui arrive dans les îles va rester dans les îles jusqu'à ce que sa demande d'asile soit traitée. S'il reçoit l'asile, il peut alors rester en Grèce continentale, mais si sa demande d'asile est refusée, il est renvoyé en Turquie.
Les autorités grecques demandent aujourd'hui plus de moyens à l'Europe pour gérer l'afflux de migrants.
Il y a les frontières qui rouvrent et celles qui ne se ferment jamais. C'est le cas en Méditerranée centrale, c'est-à-dire le tronçon de mer entre les côtes du nord de l'Afrique et celles du sud de l'Italie. En dépit des annonces du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et en dépit du traitement du bateau Sea-Watch qui effectue des sauvetages en mer, les migrants continuent d'arriver. Cécile de Barge nous en dit plus.
Ces derniers jours, tout a été dit, ou presque, sur le Sea-Watch 3. On a parlé de Carola Racchetteux, la capitaine allemande du bateau, arrêtée après avoir décidé d'entrer dans le port de Lampedusa en Sicile après près de deux semaines d'errance en mer avec 42 migrants à bord. Il y a eu les insultes d'une violence extrême qu'elle a reçue de la part de certains sympathisants de la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, mais aussi le soutien d'une partie de la société civile qui demande sa libération immédiate. Chaque fois, un message a été répété en boucle, la frontière italienne en Méditerranée est fermée. Matteo Salvini n'a pas hésité à le poster à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.
Personne ne débarquera en Italie, sauf si quelqu'un prend en charge ces personnes à Berlin, Amsterdam ou Bruxelles. Ça commence à me casser les couilles.
Pourtant, il est une image que peu ont commentée, alors que les autorités italiennes contrôlent le bateau Sea-Watch 3 encore à quai, un petit bateau équipé d'un moteur entre lui aussi dans le port de Lampedusa, avec à son bord 10 Tunisiens qui accostent tranquillement sous les yeux de la capitainerie. Car en dépit des annonces du gouvernement italien qui promet que la frontière méditerranéenne est étanche, tout l'hiver jusqu'à ce jour, de petits bateaux sont arrivés, seuls, à Lampedusa et sur les côtes du sud de la Sicile. Les départs depuis les côtes nord-africaines se sont même intensifiés avec la météo favorable de ces dernières semaines. Dimanche soir, selon un militant des droits des migrants présent à Lampedusa, les gardes-côtes italiens ont ramené à quai 40 personnes sauvées en mer, dont 5 femmes et 4 bébés. C'était la deuxième arrivée de migrants dans la journée. Des informations très discrètes et qui interviennent peu dans le débat public italien, sans doute à dessein. De son côté, le gouverneur de la région Frioul, Vénétie, si Julienne vient d'annoncer envisager la construction d'un mur de 243 km à la frontière terrestre entre Italie et Slovénie pour empêcher, dit-il, la vague migratoire qui se rapproche.
Et c'est un fait, malgré les affirmations véhémentes de Matteo Salvini en Italie, la Méditerranée n'est pas une frontière étanche, loin de là. Pour l'Union européenne, la gestion de ces flux migratoires constitue d'ailleurs depuis longtemps un aspect prioritaire et fondamental de sa coopération avec le Maghreb, notamment le Maroc. Le royaume chérifien bénéficie en échange de plusieurs dizaines de millions d'euros d'aide européenne. Pas question, en revanche, que ces pays du sud de la Méditerranée fassent le tri des migrants. Le gouvernement de Rabat l'a dit très clairement, Lakhsmi Lotha.
Selon le ministre marocain des Affaires étrangères, la chef de la diplomatie européenne n'a pas évoqué ce projet de port de débarquement lors de leur rencontre.
La position du Maroc a été claire depuis des mois. Ce n'est pas un sujet de discussion pour plusieurs raisons. D'abord, le Maroc ne jouera jamais le gendarme. Et le Maroc est contre ces hotspots ou ces solutions qui concentrent la pression sur les pays de transit. Alors que le problème migratoire est un problème qui implique les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. Deuxièmement, il faut toujours avoir peur et être très prudent à l'égard des solutions de facilité. Il faut réguler, mais on ne peut jamais interdire la migration.
Cette idée avait vu le jour il y a un an à Bruxelles, mais avait vite reçu un très mauvais accueil de l'autre côté de la Méditerranée. Le Maroc, la Tunisie et l'Égypte se sont prononcés contre. L'Union européenne avait imaginé créer des ports de débarquement sur le continent africain pour accueillir les migrants secourus en mer. Ces derniers auraient effectué leur demande d'asile depuis ces pays. Depuis des mois, les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour un mécanisme de débarquement des migrants dans des ports sûrs. Et le même scénario se répète. Un bateau de migrants errant au large des côtes européennes, faute de pays acceptant de le recevoir. Il y a quelques semaines, deux avocats ont accusé l'Union européenne et ses États membres de crimes contre l'humanité pour meurtre, torture, traitements inhumains et déplacements forcés. La cause, l'accord avec la Libye pour empêcher les migrants d'arriver en Europe. La Cour pénale internationale doit estimer si cette plainte est recevable.
On en parle tout de suite avec Eve Minot. Bonjour Eve.
Bonjour Catherine.
Alors les flux migratoires font régulièrement la une des journaux en Europe. Ils occupent autant le discours politique de nos dirigeants que les débats entre citoyens. On parle beaucoup moins en revanche des mouvements de population au sein de l'Union européenne, alors que le nombre de personnes concernées mériterait que l'on s'y attarde tout autant.
Oui, 17 millions, ce serait le nombre de personnes résidant dans un autre pays de l'Union européenne que celui dont elles ont la nationalité. 17 millions donc sur 512 millions d'habitants pour 22 millions de citoyens non européens. Une grande partie de ces Européens non nationaux, soit 12 millions de personnes, résident en Allemagne, tandis que le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la France en enregistrent chacun entre 6 et 8 millions.
Mais au regard de la population nationale, la proportion la plus élevée de non-nationaux se trouve au Luxembourg.
Oui, si l'on regarde cette fois-ci le pourcentage de la population globale que cela représente, c'est le Luxembourg qui l'emporte largement, avec 46% de la population totale. La plus faible part de non-nationaux se trouve en Pologne, avec moins de 2% de la population étrangère. Et en France, le nombre d'étrangers représente environ 12% de la population globale, un chiffre situé plutôt dans la moyenne basse des pays européens.
Et quand on parle d'eux dans les discours politiques, c'est souvent pour les instrumentaliser.
Oui, régulièrement, la même caricature revient sur le devant de la scène, celle du travailleur européen venu voler le boulot des nationaux, lors du Brexit notamment, ou lors des élections en France. Le plombier polonais, le maçon bulgare, qui fait le choix d'émigrer dans un autre pays de l'UE, comme le permet le principe de libre circulation des personnes. En réalité, l'immense majorité de ces migrants-là ne fait pas parler d'elles. Leur situation légale leur permet de s'insérer plutôt facilement et de d'ailleurs trouver du travail là où il existe, c'est d'ailleurs ceux-là qui viennent chercher. Ajoutons que ce sont des jeunes qui apportent leur force de travail au pays d'accueil et qui sont parfois formés dans les universités nationales à l'étranger.
Ce que l'on dit moins en revanche, Eve, c'est que ce phénomène démographique crée de fortes inégalités qui se creusent de plus en plus entre les différents territoires européens.
Et oui, car ces mouvements de population ne se tarissent pas, et cela même si la situation économique des pays d'origine s'améliore. Souvent prise en exemple, la Hongrie a perdu par exemple 62 000 personnes de 20 à 34 ans en 5 ans, entre 2013 et 2017, selon l'Institut Bruegel, un think tank bruxellois. Les chiffres sont particulièrement affolants pour la Pologne, qui a elle aussi perdu 268 000 jeunes sur la même période. Lituanie, 85 000. En gros, les pays de l'Est se vident de leur jeunesse.
Autre perdant, les pays du Sud.
Particulièrement après la crise de 2008 et les années chômage et austérité qui ont suivi, l'Espagne et la Grèce ont perdu plus de 100 000 jeunes partis tenter leur chance ailleurs. Et dans ces pays, c'est tout un pan de génération qui fait défaut, une jeunesse absente qui ne crée pas de richesse, bien sûr, de renouvellement, n'alimente pas les débats politiques, n'enrichit pas la vie culturelle de son pays d'origine. La population a commencé à diminuer, d'ailleurs en Espagne, elle a chuté de 5%. En Grèce aussi, en moins de 10 ans, la Pologne suit lentement le mouvement, la Hongrie est tombée sous la barre des 10 millions d'habitants.
Et les gagnants, j'imagine, se trouvent à l'Est et au Nord.
Ah bah oui, sans surprise, ceux qui gagnent tout de cette immigration, ce sont les pays riches, déjà riches, qui n'ont aucun problème de chômage. L'Allemagne en tête, qui a gagné sur la même période près de 500 000 nouveaux habitants. Mais aussi l'Autriche ou encore les pays du Benelux, sans oublier la Suède, des pays qui bénéficient d'une jeunesse formée ailleurs, je le disais, et qui travaillent donc et participent à l'économie plutôt qu'à celle de leur pays d'origine. Là où ça devient compliqué, c'est que ces pays riches n'ont pas vraiment déjà besoin d'aide, alors qu'à l'Est, cette main-d'œuvre serait précieuse et manque, et on ne peut qu'imaginer quelles seront les conséquences à long terme dans ces pays qui sont déjà les plus pauvres d'Europe.
Merci Eve, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez, on termine avec un peu d'espoir et de fête. 6500 jeunes berlinois qui viennent de célébrer leur fête de la jeunesse. Véritable rite de passage, sorte de confirmation mais laïque. La fête est organisée par l'association Humaniste, une association ouvertement a-religieuse qui veut donner plus de poids aux athées dans la société allemande. Déborah Berlioz est allée à leur rencontre.
Il y a foule devant le théâtre berlinois Friedrichstadt Palast ce samedi matin. 200 jeunes de 14 ans sont venus célébrer leur Jugendfeier ou fête de la jeunesse. Louisa s'est mise sur son 31 pour l'occasion. Avec ses anglaises blondes et sa belle robe verte, elle se prête volontiers à la séance de photos avec toute la famille sur les marches du théâtre.
Ma cousine a fait sa confirmation l'an dernier, mais comme je ne suis pas chrétienne, je ne pouvais pas faire la même chose, donc j'ai décidé de participer à la fête de la jeunesse. En plus, c'est la mode à Berlin de célébrer sa fête de la jeunesse en quatrième.
Avant la célébration du jour, les adolescents ont pu suivre différents cours. Poterie, peinture, danse, visite d'entreprise, la liste des activités est longue. Le tout se termine par un grand show au théâtre avec musique pop et discours. Le but ici est d'aider les jeunes à trouver leur propre voie et de leur faciliter l'entrée dans le monde des adultes. Tout comme la confirmation chrétienne, cette fête de la jeunesse est donc un rite de passage, sauf que Dieu n'y a pas sa place. Elle était en effet organisée par l'Humanistischer Verband, l'association humaniste. Cette organisation a été fondée en 1993 afin de promouvoir l'humanisme et ses valeurs, mais sur une base laïque. Elle reprend ainsi une tradition qui remonte au 19e siècle, comme le rappelle son porte-parole Thomas Humitsch.
L'humanisme a eu son heure de gloire sous la République de Weimar. Les organisations de l'époque avaient 600 000 membres. Elles organisaient notamment des crémations qui étaient bien moins chères que les inhumations pratiquées par l'Église. C'était plus abordable pour les ouvriers. Et ces associations ont donc attiré beaucoup de monde.
Aujourd'hui, l'association humaniste compte 14 000 membres à Berlin. Outre la fête de la jeunesse, elle organise aussi des funérailles, des mariages ou encore des baptêmes laïcs. Selon Thomas Humitsch, les croyants ne sont pas les seuls à avoir besoin de certains rituels.
Je pense que les rituels sont importants pour les gens. Par exemple, on fête tous notre anniversaire, qu'on soit chrétien, musulman, agnostique ou humaniste. On le fête parce que c'est une certaine tradition, un rituel. De la même manière, il est important de célébrer certains moments décisifs de notre vie, comme la naissance d'un enfant ou le passage à l'âge adulte.
Matthias Spen est pasteur et directeur du centre de formation de l'église protestante de Berlin. Selon lui, qu'une association humaniste, et donc athée, organise des rituels est presque contradictoire.
Les rituels supposent toujours une croyance en quelque chose d'extérieur. On les pratique quand on a besoin justement d'un soutien supérieur à soi. Si cela reste à un niveau matériel, ce n'est pas par définition un rituel.
Ce pasteur comprend bien le besoin d'un appui au moment clé de l'existence. Mais selon lui, les manifestations comme les fêtes de la jeunesse ont surtout été inventées pour empêcher les églises de gagner plus de public. Thomas Humitsch insiste cependant bien sur un point. Son association est a-religieuse, mais pas anti-religion. Dans le même temps, il estime que les églises ont trop d'influence en Allemagne.
Le gouvernement demande l'avis des églises sur de nombreuses lois, notamment dans le domaine éthique ou médical. Elles peuvent ainsi promouvoir leurs valeurs, mais nous aussi, nous avons des valeurs à faire entendre, et c'est pourquoi nous devions nous organiser.
Et son association gagne en visibilité dans l'espace public. À Berlin, elle a acquis le même statut que les églises en 2018, celui de corporation de droit public. Par ailleurs, tout comme les églises, elles gèrent de nombreux services sociaux, comme des crèches, des maisons médicalisées ou encore de l'aide aux sans-abri. Les églises sont en effet très présentes dans ces domaines. Il ne faut pas oublier qu'elles sont le deuxième employeur d'Allemagne après l'État. Pour Thomas, il est cependant essentiel d'offrir une alternative au service des églises.
Il y a trop peu de maisons de retraite, par exemple, en Allemagne. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants et qui se retrouvent dans ces endroits avec une croix dans leur chambre. Et ça, eh bien, ça les met mal à l'aise.
L'association humaniste emploie 1300 personnes dans la capitale allemande et ses célébrations semblent très populaires. 6500 jeunes participent cette année à sa fête de la jeunesse dans Berlin et sa région. Du côté de l'église protestante, on ne compte que 5200 confirmations dans la même zone. Si ce chiffre reste stable depuis quelques années, le nombre de membres de l'église protestante ne cesse de chuter. Selon une récente étude, les deux églises chrétiennes vont perdre la moitié de leurs fidèles d'ici à 2060.
Merci de nous avoir suivis. Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Et vous pouvez nous retrouver évidemment sur notre site et sur Facebook.